Alors voilà, mon nom est Laurent Paquin et c'est le cœur rempli de tout, sauf de l'hostie de roue de bière que je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode de Sport. Merci, bonsoir! Aujourd'hui, à l'épisode d'aujourd'hui, vous entendrez les voix de Stanley Hilaire, Conrad Hilaire, Sianne Lefrançois, Nadine Mathurin, Stéphane Plante et Brigitte Soucy. Tout ça, bien sûr, sous l'habile direction musicale de M. Éric Desranleau. Oui, et on poursuit avec une habitude qu'on a commencée, une belle habitude. Tu sais, il y a des mauvaises habitudes, on a commencé une belle habitude. On a décidé de donner des thèmes à chacun de nos épisodes. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la tricherie.
Ça, c'est mal.
Ça, c'est la tricherie, c'est pas bien. Et moi, j'avais envie, pour mon petit commentaire du jour... Je me suis dit, ben, on va parler de tricherie, OK, de quoi je peux en parler? Et je me suis dit, tiens, on va parler de soccer! J'avais envie de parler de soccer parce que bon, le soccer qu'on appelle aussi football, hein, mais ça, c'est juste dans le monde entier. Mais, anyway, moi, je préfère le mot soccer parce que c'est l'insulte qui me vient en tête quand je regarde un match de foot. J'ai joué au soccer et j'ai jamais vu autant de tricherie de toute ma vie. Des gars qui font semblant de jouer le ballon, mais qui veulent juste défoncer Tibia. Des joueurs qui font des plongeons, qui feraient passer Sylvie Bernier pour un mononcle sou qui fait des flats à Beden. On a tous déjà vu des vidéos de joueurs de soccer qui se jettent à terre comme s'ils avaient reçu une balle explosive dans le jarret. Puis tu vois clairement à la reprise que le gars s'est à peine fait frôler le mollet. J'ai déjà vu, moi, pendant que je jouais devant moi, le gars était même pas proche. Le gars qui se jette à terre comme si j'y avais pété les chevilles avec une barre à clous. Ce qui est quand même ironique vu que c'est ce que j'aurais eu envie de faire tout de suite après. Il y a des joueurs que si on se fie à leur réaction, c'est impossible qu'ils continuent à jouer après ça. T'as une réaction qui laisse croire à une fracture ouverte. Tu boites 3-4 pas, puis tu repars à courir comme si de rien n'était. Fuck you! OK? Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui a fait une vidéo où il mettait en parallèle des joueurs de soccer et des joueuses de rugby. Écoute, c'était honteux pour la jante masculine. Je sais pas si vous connaissez le rugby, mais c'est comme du football, mais sans équipement.
C'est à peu près ça, ouais.
Tu sais, c'est l'équivalent de jouer au hockey dans la Ligue nationale, mais en bedaine, pas de jackstrap. Là, tu voyais les filles recevoir des coups de coude d'en face, ça tombait en pleine face dans la boîte, le visage en sang, la fille se relève, s'essuie à la face avec sa manche de T-shirt, par part à courir. Pendant ce temps-là, sur le terrain de soccer, t'as Sarah Bernard pis sa gang de cœur antique de tragédie grecque qui se roulent à terre comme des croquettes de poulet dans la chapelure, qui font le bacon parce qu'ils sont tombés sur de l'herbe. J'en ai vu un qui se serait fait frapper la cheville, évidemment. Il tombe à terre et son réflexe, c'est de se mettre les deux mains d'en face. Personne fait ça. Qui fait ça? Personne fait ça. C'est comme un gars qui se mettrait à boiter après avoir reçu une balle dans le bras. Sois plus conséquent, body, quand tu fakes. C'est comme si ma blonde feignait un orgasme pendant que je fais la vaisselle. Le timing est pas bon. Bref. Là, je le sais que s'il y a des fans de soccer qui nous écoutent, les vrais, là, je parle, les vrais fans de soccer, là, sont faciles à reconnaître parce que les autres, ils disent « foot ». Puis ils te font sentir comme le dernier des résidus du champ d'épuration parce que toi, tu dis « soccer ». Anyway, bref, eux autres, là, yaissent bien ça quand tu parles de ça. Hein? Mm-hmm. Tu veux faire fâcher un fan de foot. Tu y parles des fakeux qui jouent au soccer. Puis il va te dire oh, « Arrêtez de dire ça! Le foot, c'est plus que ça! » Et leur argument m'a sucé. « Tu penses qu'au hockey, c'est mieux? Hein? Il n'y a pas de fakeux au hockey, je gage? » Non. Il y en a plein. Qu'est-ce qui arrive avec ton argument, là? Hein? Tu vois, c'est un des avantages que j'ai, moi, de haïr tout le monde, c'est que tu peux pas m'atteindre avec tes arguments. Merci. Bonsoir. Hey, aujourd'hui, pour le podcast, on est très heureux, tout le monde, parce qu'on a de la belle visite, on a de la grande visite. Non, ce n'est pas le chien de Diane Lefrançois qui vient d'arriver. Non, on a de la visite. Hey, en direct de Saint-Léandre, près de Matane. Je suis obligé de préciser que c'est près de Matane parce que je veux pas être plate, mais personne sait où Saint-Léandre. On a avec nous M. Yvon Barrette. Mesdames et messieurs!
Yeah!
Yvon Barrette, acteur qu'on a vu, évidemment, dans, qu'on l'a vu dans La vraie nature de Bernadette, dans Parlez-nous d'amour, on l'a vu également dans 15 février 1839 et plus récemment dans Le bruit des arbres de François Péloquin. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, Yvon? Tout le monde se rappelle de votre personnage de gardien de but dans Slapshot. Ouais. Denis Lemieux, gardien de but étoile des Chiefs. Comment ça va, Yvon? D'abord, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Ah, ça va très, très bien. Regarde, Denis Lemieux, ça fait 45 ans qu'il me promène. Ça fait que... Quand j'ai fait 15 février 1839 avec Pierre Falardeau, sur le DVD, il avait demandé, il avait offert à tous les patriotes d'écrire une scène qu'on trouvait qui manquait dans le scénario. Moi, j'avais écrit une petite scène pour dire jusqu'à quel point j'en voulais à Delormier de ne pas nous avoir fourni les fusils et tout ça. Puis quand la scène passait sur le DVD, Falardeau disait « Ça, c'est Barrette et tout ça. Il a fait un film, lui. Slapshot.
Hey, évidemment que c'est un film qui est devenu culte, mais j'ai l'impression que c'est un film qui est devenu culte pas tout de suite. Le film a comme plus ou moins bien reçu au départ.
Au départ, on va dire, la première était à la Plaza Alexis Mignon. On était, Yvan Ponton était là, il y avait Nancy Dowd, il y avait Arlen Picard. On était plusieurs de cette à l'entrée. Il y avait un visionnement à 5h30. Puis on avait tous hâte de voir la face des gens qui sortiraient du théâtre. Est-ce qu'ils ont eu du fun ou pas de fun? Ou... Le premier qui sort de la salle, c'est un Irlandais d'à peu près 70 ans, un fan fini des Canadiens. Puis il s'enligne direct sur moi et il dit « You're a disgrace for hockey. » Ça, ça a été la première réaction.
Lui, il pensait que c'était un documentaire, c'est ça?
Je ne sais pas ce qu'il pensait, mais il n'a pas vu le même film que moi, j'avais tourné.
Maintenant, là, vous êtes à Saint-Léandre, c'est dans le bas du fleuve. Et, c'est une blague, mais je me suis demandé, est-ce qu'il s'est exilé loin parce qu'il ne pouvait plus sortir de chez eux sans que quelqu'un lui demande de faire une citation du film? Parce qu'il y a des phrases cultes dans ce film-là. Celle qu'on vous associe spontanément, c'est le fameux « Trade me right fucking now ».
Raccroche.
Absolument, ouais.
Est-ce que ça a été dur à un moment donné de dire « Hey, j'ai fait d'autres choses dans la vie ». Vous ne pourriez pas me parler de mes autres films?
Non, regarde. Je vais te raconter comment ça s'est passé pour moi dans ma carrière. Okay? Quand j'ai fait Slapshot, j'ai participé à un tournage, pour moi, extraordinaire, parce que je venais de finir l'École nationale de théâtre. J'avais le privilège de jouer avec Paul Newman.
Quand même.
Puis de rencontrer un paquet d'acteurs extraordinaires, Strother Martin, le réalisateur George Royal. C'était un être fascinant. Puis moi, quand j'ai tourné ce film-là, j'avais plein d'école à l'époque. Je suis plus en forme maintenant que je n'étais quand j'ai fait le film. Parce que j'ai 36 ans de sobriété. Tu vois, ça fait une grosse différence pour moi.
Quand même, oui.
Puis de travailler avec une équipe comme celle-là, on a eu tellement de fun. On s'est retrouvés 13 semaines, une gang de gars, avec des personnages amusants à jouer. Moi, j'avais un rôle extraordinaire à faire. Tu sais, j'ouvrais le film, je partais ça en riant. J'avais le privilège aussi de participer à un film sportif qui n'était pas axé sur une vedette. C'est le personnage de Denis Lemieux, je l'ai créé. Comprends-tu?
Oui, oui,
oui,
je comprends.
Ils sont venus me chercher à Saint-Léandre parce que « They were looking for a short, squat, French-Canadian. » OK? Pour faire le gardien de but. Inspiré par Rogatien Vachon. Hey, je reste à Saint-Léandre, c'est loin de Montréal. J'ai reçu un téléphone à 9h le matin d'une fille de l'Union des artistes. Elle me demandait si ça vous intéressait de faire un film avec Paul Newman. J'ai dit oui. Alors, je me suis rendu au rescapé. J'ai appelé M. Fenton. Il m'a amené manger. Il m'a raconté l'histoire du film parce que je ne savais pas si c'était un western ou n'importe quel autre film. Puis après ça, on est remonté à sa chambre. J'ai lu le scénario d'un couvert à l'autre. Puis vers minuit, j'ai fait comme audition la première scène du film. Puis lui me donnait la réplique. Puis quand on a eu fini les quelques pages de texte, il s'est mis à improviser. Puis j'avais déjà une bonne idée de qui était Denis Lemieux ayant lu le scénario et tout ça. Je trouvais que c'était proche de moi et que je pouvais m'investir dans le personnage, que je n'avais pas à représenter quelqu'un d'autre.
Je comprends.
Alors, c'est ça.
C'est quand même drôle parce que on dit que le film est devenu culte. Il y a quelque chose dans la version originale qui était particulier, c'est que les Québécois francophones, il y avait leur accent québécois francophone, c'était mélangé avec des gens qui parlaient en anglais très bien, mais on le perd un peu ça dans le doublage, mais c'est la version doublée qui est devenue culte pour les Québécois.
Ben écoute, quand Nancy Dowd s'est rendue en France pour voir la version française, dès qu'elle a eu entendu le Marseillais me doubler, puis parler de Gouret, puis de Palais, puis elle a dit non, je ne peux pas amener ça au Québec, je vais me faire tuer. T'as entendu?
Ah, fait qu'à l'origine, c'était supposé être doublé par des Français.
Ah oui, absolument. Oui.
Est-ce que c'est vous-même, vous vous êtes doublé vous-même?
Moi, j'ai fait ma voix en français aussi. Mais je suis moins familier avec la version québécoise parce que je suis rentré en studio puis en 2 heures, j'ai fait le tour de mes répliques.
Ah, vous devriez louer ça, c'est bien, bien bon.
Je
vous le recommande.
Entendu,
ça s'appelle Slapshot, c'est vraiment bon. Hey, merci.
Il y a une autre affaire. Oui. Non, la version québécoise de Slapshot, c'est la première fois qu'un film américain était doublé au Québec.
Ah,
ça
ouais.
Faisait des années qu'on a... Ben oui, ça a eu le même effet que le théâtre de Michel Tremblay.
Effectivement, ça, c'est vrai.
Non, exactement.
Ah ben merci, Yvon Barrette.
Oui.
Ouais, excusez, faut expliquer aux gens qui nous écoutent, on est en longue distance présentement, Monsieur Barrette, et donc on le disait tantôt dans le bas du fleuve, nous ici on est à Montréal, fait que des fois ça se peut qu'il y ait un petit délai, qu'on ait de la misère à s'attraper en cours de route, mais Yvon, vous restez avec nous parce qu'évidemment ça se peut qu'on vous interpelle parce que je veux pas vendre de punch là, mais il y a des petits bouts qui vous concernent dans l'épisode d'aujourd'hui. Ça s'en vient même très très bientôt effectivement parce que là c'est l'heure de Diane.
C'est le sport.
Bon, merci. Bonsoir. Chicken wings et chicken quiz.
Hey, ça a été répété pendant des heures.
Oui. Il y a eu pareil comme à répéter.
Donc, Diane, les règles.
Alors, les règles du jeu, c'est très simple. On va tester les connaissances de notre invité Yvon Barrette sur son film culte Slapshot. Alors, si notre invité spécial obtient 5 bonnes réponses et plus sur 10, il se méritera quoi, Georges?
Il se méritera 5 ailes de poulet de la cage, Diane.
Ah oui, c'est des ailes gratuites?
Absolument gratuites.
Oh!
Et délicieuses.
Merci, Georges. Alors, on invite le public à participer, mais pas à gagner, s'il vous plaît. On garde nos ailes pour notre invité spécial. Alors, la première question, est-ce que tout le monde est prêt?
Oui.
Alors, bien sûr,
oui. Oui.
Ah, c'est un honneur d'entendre votre voix, je capote. Alors, question 1. Quel est le nom de famille? Juste avant de préciser, c'est des questions à choix de réponse. Donc, il y a toujours 4 choix de réponse. Fait qu'attendez à la fin pour me donner votre réponse. Des fois que ce serait la dernière, la bonne réponse. Alors, la question 1. Quel est le nom de famille du joueur qui est pacté et qui menace de pisser dans son jackstrap à la prochaine mise en échec? Alors, est-ce que c'est A, McCracken, B, Onechuck, C, Bluffy ou D, toutes ses réponses?
C'est la troisième réponse.
Oui, c'est Bluffy!
Hey, là, j'ai déjà une aile de poulet.
Ouais,
c'est bon. Exactement.
Ça va très bien, très, très bien.
On lâche pas. Alors, la question 2. Quand Reggie Dunlop participe à une ligne ouverte à la radio, alors, c'est quoi l'insulte que lui lance une auditrice? Est-ce que c'est A, t'es lent comme la file au bureau des passeports, même si je pense que les passeports n'existaient pas à cette époque-là? B, t'es aussi rapide que l'intrigue d'un film français? C, Chris de vieux singe, quand est-ce que tu vas prendre ta retraite? Ou D, T'es aussi laid qu'une étiquette d'un pot de sauce de spaghetti.
La troisième réponse.
Oui, oui, c'était le
singe. Ben oui. Je connais ces répliques en Québec.
Hey, deux ailes de poulet déjà.
Deux ailes de poulet.
Alors, question 3, on est chaud, chaud, chaud. Qui est plein de bullshit? Juste de la maudite bullshit. Est-ce que c'est A, Billy Charlebois? D, Ned Braden, oui, pardon. C, le chef Giovanni Apollo? Ou D, Vladimir Poutine?
J'aurais tendance à dire Poutine, mais c'est Braden.
Oui!
Trois ailes, trois ailes.
Hey, c'est un score parfait. Question 4. Quelle maladie menace Lily parce qu'elle est belle en crise, selon Reggie? Est-ce que c'est A, la COVID-19, B, une sinusite, C, une pneumonie ou D, une bronchite?
D'après moi, c'est une bronchite.
Eh oui!
Ah! Une autre bonne réponse.
Ah! Oh.
Hey! C'est tellement hey, ça fait bon. Deux poulets, ça.
C'est incroyable, on dirait qu'il a joué dedans. Alors, question 5. À quel personnage doit-on cette phrase? Il y a bien du monde à soir, fait que je veux une victoire, OK, les boys? Est-ce que c'est A, O.G. Oglethorpe, B, Stan Ouellet, C, Dominique Ducharme pendant la pandémie ou D, Joe McGrath?
Joe McGrath!
Yeah! Yeah! Oui! Oui!
Trop facile, trop facile.
Trop facile, hein? Ça va se compliquer, là. Quel numéro portait Jean-Guy Drouin, qui est joué par Yvan Ponton?
Tabarouette.
Est-ce que c'est A, 94, B, aucun, Yvan Ponton, c'est le coach chien, C, aucun, Yvan Ponton, c'était l'arbitre chien devant un barillet rempli de thèmes, ou D, le numéro 14?
Ça doit être le numéro 14.
Ben oui! J'ajouterais à ça qu'il était même assistant capitaine, M. Ponton.
Voilà.
Alors, question 7. On a un score parfait jusqu'à maintenant. C'est incroyable. Pourquoi Denis Lemieux, l'illustre gardien de but des Chiefs, ça c'est vous, souhaite un transfert du club en Floride? Est-ce que c'est A, parce que c'est là qu'il y a des plages? B, parce que c'est là qu'il y a le condo de Mike Ward? C, parce que c'est là qu'Huberdo fera une saison de 100 points et plus? Ou D, c'est là qu'il y a le mouton.
C'est parce que c'est là qu'il y a le mouton.
La question 8. Quel entraîneur actif de la LNH a un rôle de figurant dans le film? Alors, un indice, il portait le numéro 7 dans le film et se fait bousculer devant le filet. Est-ce que c'est A, Martin Saint-Louis? B, Barry Trotz? C, Bruce Boudreau? Ou D, Claude Ruel?
Bruce Boudreau!
Alors, avant-dernière question, le stress est à son comble. On veut un score parfait. Qu'on envoie un camion de poulet à Matane. Question 9. Quel surnom veut prendre maintenant Dave Carlson, le numéro 3, à la suite de plusieurs combats sanglants? Est-ce que c'est A, l'assassin? B, killer? C, le chirurgien? Ou D, l'otorhino-laryngologiste?
Killer!
J'ai l'impression que vous voyez mes réponses dans mon écran. Alors, la dixième et ultime question.
Non, mais j'ai encore une bonne mémoire.
Alors, quel est le montant de la pièce de monnaie que la police va remettre au Hanson en prison afin qu'il puisse commander une pizza? Est-ce que c'est A, 25 cents, B, 10 cents, C, 5 cents ou D, rien? Tous les prisonniers ont droit à un appel.
Tous les prisonniers ont droit à un appel.
Oh non!
On n'a pas
le mesdames et messieurs!
C'était
10 cents!
Mais c'est un score presque parfait.
9/10!
9/10! Je pense que ça mérite une bonne main d'applaudissements. Merci beaucoup, Diane Lefrançois. Merci. Yvan Barrette également. Nous en sommes à la chronique Les Soucis à Soucis. Et on va parler des grands tricheurs avec Brigitte Soucis, mesdames et messieurs.
C'est moi, Laurent. Écoute, oui, j'ai envie de te parler des grands tricheurs de l'histoire. Et à vous tous, là, du même coup. Si un athlète, être un athlète de haut niveau demande énormément de persévérance, être un athlète tricheur demande énormément d'inconscience ou d'audace. Lance Armstrong, lui, vous confirmerait que ça prend des couilles. On se souvient tous de ce qui lui a été retiré, hein?
C'est
sept titres de champion de Tour de France, attention Diane, après qu'il ait été trouvé coupable de dopage en 2012. Mais ce n'est pas tous les tricheurs qui déploient autant d'efforts, hein, par contre. Une qui ne s'est pas cassée le bessic comme Lance, c'est Rosie Ruiz, une Cubaine, qui a franchi la ligne d'arrivée du marathon de New York en 1979 en un temps record parce qu'elle a décidé d'en faire un bout en métro, tu sais. Ouais. Galvanisée par sa 11e place facile, elle a récidivé 6 mois plus tard à Boston en utilisant un subterfuge un peu différent. Elle a passé les 40 premiers kilomètres dans une chambre d'hôtel sur le site du marathon, puis elle est sortie, chillax, courir les 2 derniers kilomètres pour pulvériser le record du monde.
C'est...
Oui! Ben, OK, elle a fini par se faire démasquer, là, mais c'est choquant. Tu sais, pour que tu comprennes le feeling, Laurent, là, mettons, j'essaie de trouver un parallèle à faire... C'est l'équivalent d'un gars d'un autre pays qui viendrait voir les 2 dernières minutes de ton show à Montréal puis qui retournerait dans son pays en reprenant tes jokes là-bas, mais avec un accent, mettons.
Voyons voir si ça existe.
Eh ben non, mais c'est de la pure fiction, mais c'est ça serait choquant, tu sais. Mais parmi toutes les tricheries que le sport a connues, je dois admettre qu'il y en a des particulièrement ingénieuses, comme par exemple ce qu'ont fait les Astros de Houston au baseball, en installant des caméras judicieusement placées dans le stade pour capter les signaux donné par les petits doigts du receveur dans sa fourche, là. Signaux qui étaient ensuite retransmis aux frappeurs adverses par des coups sur l'abri ou d'autres stratagèmes de communication. Comme ça, en sachant d'avance qu'on va lui lancer, le frappeur peut anticiper, s'ajuster. Ils s'en donnaient la peine quand même, hein? Je trouve ça vraiment admirable. Mais à l'opposé de ces méthodes de triche sophistiquées, il y a celles que je qualifierais de bébé. Okay? Mettons J.R. Smith, joueur de la NBA, qui défait les lacets de ses adversaires pour les déconcentrer. J.R., t'as quel âge? Hey, qu'est-ce que tu fais après dans le vestiaire avec tes coéquipiers? Tu caches leur clé de char dans le drain des douches? Tu mets du V8 dans leur Gatorade puis tu voles leur sel pour texter à leur blonde caca? Voyons! Dans la même catégorie, Brad Marchand, lui, son édifiante stratégie pour déstabiliser l'adversaire, c'est de licher leur face. Hein, il a fait ça à Leo Komarov puis Ryan Callahan. Ce que TVA Sport, pas plus mature, a surnommé le Lichette Gate. Le Lichette Gate, voyons, Lichette, qui dit ça au hockey? Au Dairy Queen de Drummondville en 83, peut-être, là, quand j'ai volé une lichée dans le Sunday de ma cousine Chantal puis que ça l'a tellement fâché qu'elle a fait un choc vagal dans le parking, oui, on peut parler de Lichette Gate. Mais pour un joueur des Bruins de Boston, je pense pas, non. Et là, je parle pas du Deflate Gate, un autre scandale touchant le football américain cette fois, oui, quand les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont été soupçonnés de dégonfler les ballons pendant le championnat de 2014 pour que Tom Brady ait une meilleure prise dessus. Hey, Tommy Coco, veux-tu jouer avec des spikes de Flash McQueen aussi pour courir plus vite? Les gars, man up, là! Et ça met hors de moi, Laurent.
Ben oui, je vois ça.
Tout comme l'ensemble de l'arnaque orchestrée par les joueurs de soccer, de foot, là, comme tu as parlé en ouverture, Laurent, qui se transforme en grand tragédien quand il est question d'aller chercher un carton jaune à partir d'une jambette de jouvencelle. Diego Maradona, le Maradona, à ne pas confondre avec Madonna, qui, elle, triche avec sa face, présentement, qui a compté un but avec la main dans le match de quart de finale du Mondial à Mexico en 86. Il avait trouvé une façon de faire passer son geste pour une tête, mais c'est clairement sa main qui a fait entrer le ballon. Il a même dit en conférence de presse que le but avait été marqué un peu avec sa tête et un peu avec la main de Dieu. Hey, tu diras ça au juge, toi, quand ta collègue Josée va t'accuser d'harcèlement, que c'est un peu la main de Dieu qui a pogné une fesse au party de Noël. Voir si ça passe. Voyons, Diego, viens que nous autres, là! Toujours au foot, il y a Roberto Royas, le dégueulasse, un gardien de but chilien qui, dans un match de qualification pour la Coupe du monde de 90 qui opposait son équipe au Brésil, a simulé avoir été blessé par une bombe fumigène lancée par un spectateur brésilien, alors qu'il s'était lui-même subtilement entaillé le sourcil avec une lame de rasoir qu'il avait cachée dans son gant. Dégueulasse! Non, mais il faut être déjà un peu fêlé du chapeau là, pour faire une affaire de main. Voyons, Roberto! Là, Roberto, je l'ai classé dans les tragédiens, mais il aurait très bien pu se retrouver dans ma prochaine catégorie, les outils. La fameuse barre de métal utilisée par le garde du corps de la patineuse Tonya Harding, qui est allée frapper la jambe de sa rivale, hein, on s'en souvient, Nancy Kerrigan, pendant un entraînement. La courageuse Nancy, de laquelle tous les freluquets joueurs de soccer devraient s'inspirer, quant à moi, a été blessée au genou, mais elle a quand même remporté la médaille d'argent aux Jeux de Lillehammer 6 semaines plus tard. Dans tes jambes, Tonya! Il y a aussi le plâtre que Panama Lewis, un entraîneur de boxe, a coulé dans les gants de son poulain Louis Resto. Oui, Resto, c'est son nom de famille, je trouvais ça drôle. Pour qu'il casse la gueule de son adversaire Billy Collins un soir de juin 83. Collins a perdu un œil dans ce combat-là, puis Lewis a fait 4 ans de prison. Donc, ça remet en perspective le petit choc vagal de Chantal ou Dairy Queen la même année, ça. Hein? Mais pour moi, une des pires supercheries est hors catégorie, tellement elle est basse et cheap. Aux Jeux paralympiques de Sydney en 2000, l'Espagne a fait jouer une équipe de basket dans laquelle 10 des 12 joueurs étaient en fait de faux déficients intellectuels.
Ben
on leur aurait demandé...
Oh oui, my attention. God!
Je cite, je les cite, c'est bien important. On leur a demandé d'avoir l'air stupide pour être crédible et ainsi rafler tous les honneurs. Bon, wow. J'imagine que ces gars-là n'avaient pas tous le talent d'acteur de Marc Bellan dans Annie et ses hommes, parce qu'un journaliste qui avait infiltré l'équipe a ensuite révélé le poteau rose et la médaille leur a été retirée. Wow. Reste que cette affaire-là a eu un impact sur l'ensemble des équipes du sport adapté, puisqu'elle a entraîné l'exclusion de tous les déficients intellectuels des Jeux paralympiques, et ce pendant 12 ans, jusqu'à leur réintégration à Londres en 2012. Le Comité international paralympique considérait qu'il était trop difficile de déterminer le niveau de handicap des athlètes avec une déficience intellectuelle. Ça, Laurent, là, c'est comme si on abolissait le dating parce que c'est trop difficile de déterminer le niveau d'honnêteté des gars sur Tinder, alors qu'on pourrait simplement condamner les fautifs au célibat éternel. Bon, là, je m'emporte, je ne voulais pas que ça devienne personnel.
Mais oui, calme-toi. Okay?
Mais ce qui me réconforte dans ce monde de mensonges et de duperies, c'est un article écrit par un psychologue de l'Université de Harvard, Mark Hauser, qui a pour titre « Le coup de la tromperie, les tricheurs sont toujours punis ». Ce qui est drôle, c'est que Mark, aujourd'hui, ben, il n'a plus de job depuis que l'Office américain sur l'intégrité dans la recherche a conclu qu'il avait fabriqué des données, manipulé les résultats de nombreuses expériences et menti sur la façon dont les études avaient été réalisées pour écrire le dit article. Alanis Morissette dirait que c'est ironique.
Oui. Hein?
Puis Dave Morissette, lui, ben, il dirait que c'est une bonne toune, Bergie. Comme quoi, il faut faire confiance au karma, Laurent. Voilà.
Merci beaucoup, Brigitte Soucy, mesdames, messieurs. Ah, oh, man! Il y avait quelques histoires que je connaissais, mais il y en a que non. Ah, écoute, ouais, j'arrive encore à être surpris. Tu nous surprends chaque fois.
Hey, tu joues aux Jeux paralympiques, sérieux, là.
Quand même.
Sérieux, là.
Ben, c'est que quelle fierté tu retires de ça
c'est
après.
C'est terrible.
Quand est-ce que tu vas te vanter d'avoir c'est gagné ça si
en
t'es
enfer
pas...
où tu vas aller après.
Ben, probablement.
Voyons donc.
Changement de sujet. Probablement que tout comme moi, vous vous êtes déjà dit, il me semble que je me doperais, tu sais, juste un peu pour arriver à bout du pelletage de mon driveway. Mais vous n'avez jamais su comment vous fabriquer un petit cocktail de performance. Eh bien, votre vœu est exaucé, chers auditeurs. Casque à sport, merci, bonsoir. On vous présente une nouvelle chronique. Voici Juste Ciel, mon pinard.
Bonsoir tout le monde. De plus en plus, on me demande si, en plus des recettes gastronomiques gustatives, si je peux concocter des mélanges qui pourraient servir nos beaux sportifs, nos grands athlètes. Mais c'est aussi pour un peu tout le monde qui veut exceller dans des disciplines sans avoir à se forcer. Alors j'ai pour vous les parfaits cocktails pour vos libations dînatoires avant d'entrer au jeu. Et je commencerai avec le PO, mais pour satisfaire tout un chacun, et pas seulement l'élite sportive de haut prestige. Car qui dit EPO, pense surtout à des performances dignes des athlètes olympiens qui faisaient relever la verge des divinités gréco-romaines. Mais dorénavant, on peut maintenant consommer ces nectars vivifiants dans la quiétude de notre quotidien, de nos activités de tous les jours. Pas besoin d'une épreuve de triathlon pour se laisser aller un petit boost de stéroïdes anabolisant non plus. On peut aussi bien y aller d'un peu de stéroïdes avant une compétition de poche de patates dans une foire agricole. Que ce soit des patates pilées pour un hachis parmentier bien décanté ou des patates douces qui accompagneraient une tarte renversée au wapiti. On peut aussi ingurgiter cet élixir anabolisant juste avant une compétition amicale de quilles finlandaises pour clencher tout le monde dans les parties de famille. On peut aussi servir les glucocorticostéroïdes. Juste prononcer le mot, je me sens tout stimulé. Je me pèterais une compétition d'escrime dreadla. Mais malgré son nom avec plus de syllabes que peut en prononcer Vincent D'Anfous dans toute une vie, il s'agit seulement d'un anti-inflammatoire, qui, comme son nom l'indique, est un anti-inflammatoire. On retrouve également les mélanges avec des diurétiques, à ne pas confondre avec la dianétique. Ça m'est arrivé une fois, j'ai passé un dimanche matin plutôt singulier. Il y a aussi les agents masquants pour pouvoir éliminer la preuve de doping au moment d'uriner. Uriner, c'est toujours une activité qui nous satisfait pleinement, mais avec la possibilité d'éliminer les preuves de doping, c'est encore plus excitant. C'est jubilatoire. Emmenez-en des urinoirs. Hmm? Tout ça peut être servi dans un flacon un peu plate pharmacologique, mais on peut aussi faire un emballage cadeau qui passe beaucoup mieux aux douanes. Vous pouvez laisser ça au frigo une trentaine de minutes ou 15 jours parce que finalement, ça change absolument rien. Et si jamais vous avez une grosse compétition de boulingrin ou de luge, vous pouvez mettre tout ça ensemble dans une mijoteuse et vous verrez et savourez la texture onctueuse de cet élixir, ma foi, renversant. Et pour l'avoir essayé moi-même à quelques reprises avant le squash, je peux vous dire qu'on ne peut plus s'en passer et je parle pas du squash. Mais pour vrai, j'en ai refilé à mon neveu pour ses compétitions de soccer le samedi matin à 6 heures. Magnifique, le gamin. Et il s'est rendu que toutes les soccer moms sont après moi pour connaître mes recettes. Avant, on m'écrivait pour mes recettes de coulibiac de saumon picard rehaussé de moutarde de Dijon, mais maintenant, on veut connaître mon mix de stimulants à la pseudo-éphédrine dans les 5 à 7 sur Crescent. Mais parfois, on est fatigué, on arrive de travailler, on n'a pas le goût de cuisiner pour se stimuler comme ça. C'est alors qu'on peut s'en remettre à cette bonne vieille cocaïne qui peut toujours rendre service. Et c'est plus répandu qu'on le croit. Comme le dit le proverbe, « voir la paille qui est dans le nez de son voisin, ne pas voir la poudre qui est dans le sien. » Par fantaisie, on peut aussi bien l'aspirer qu'un bill de 20 $ mais de plus en plus, on accepte les crypto-monnaies. C'est vraiment rough sur les narines, par exemple. Le tout accompagné, bien sûr, d'un zeste de goutte dans les yeux pour éviter d'avoir l'air d'un Christ de fou ballant blanc. Moi, depuis que j'ai remplacé la farine par la cocaïne dans mes recettes, il n'y a jamais un enfant qui s'est plaint de son gâteau de fête. Si vous croyez que les muffins aux potes changent la donne dans une réception mondaine, attendez de goûter à mes Cup Coke. Vous allez pogner de quoi. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour des solutions alternatives, sportives, pour ceux qui, comme moi, ne veulent pas s'entraîner, mais veulent des résultats probants. Je vous laisse, je dois aller faire des petits canapés coqués pour le parti de Guy la Liberté sur la Rive-Sud.
Merci beaucoup! Daniel Pinard, Daniel Pinard. C'est le retour des Pinardises. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au moment de commencer le personnage, sa face était déjà en transformation, tout grimaçant. Là, tu vois, OK, il se met dedans. J'adore ça. On en est rendu au segment du podcast que vous attendiez tous. OK, vous ne l'attendiez pas parce que c'est la première fois qu'on le fait, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Voici Trichement Vôtre avec Nadine Mathurin.
Hey, Laurent.
Oui, Nadine.
T'as-tu déjà triché, toi? Faire un petit Amy Schumer de toi-même, hein? Un petit gars d'Elmaleh, non?
Non? Vite de même, là.
Juste une petite tricherie, là, petit copier-coller de site web, ni vu ni connu dans ton cours d'histoire de l'art avec une prof passée date qui connaît pas l'Internet, non?
Quand j'étais à l'école, il n'y avait pas l'Internet.
Ah, OK, ouais. Non, mais loucher par-dessus l'épaule de ton voisin dans un examen de maths, un examen de français, un examen de cours de conduite, non, rien?
Ouais. Ça me dit quoi, vaguement?
Moi, je dois vous avouer quelque chose aujourd'hui, là. Je suis une tricheuse compulsive. Je suis pas capable de m'en empêcher. Je triche comme d'autres respirent en silant plugué sur une machine d'apnée du sommeil. OK, check, Laurent, on va jouer à roche-papier-ciseaux, OK?
OK.
Roche-papier-ciseaux!
Ben, on sait quoi, ça?
Ben, c'est un trou noir, ça avale tout, j'ai gagné! Ah! J'ai commencé ce jeûne, là, du plus longtemps que je me souvienne, je trichais à la cachette. Je comptais jusqu'à 100, mais j'allais pas chercher mes amis. Mais tu vois, ça m'a servi. Maintenant, j'ai mes maths 536, puis je me calisse toujours autant des autres. J'écrivais mon nom sur les dessins non identifiés plus beaux que les miens. Mon père les a tous gardés. Hey, je trichais même à la corde à danser. Les 12 mois de l'année sont janvier, février, mars, avril, décembre. Aujourd'hui, je triche même dans des sports où ça n'a pas rapport. L'autre jour, je me suis surprise en train de tricher dans mon cours de yoga parce que je voulais vraiment gagner la salutation au soleil. J'ai déjà triché au baseball. Je faisais semblant que c'est un sport intéressant, mais aha! Dans leur face, je trouvais ça super plate. J'ai été 5 ans dans une ligue de baseball, puis je me suis jamais fait pogner.
Bravo!
T'as observé.
Hey, les gens, ils disent toujours que tricher, c'est grave, mais c'est pas vrai. Ce qui est grave, c'est de se faire pogner. C'est pour ça que la première règle à triche, c'est d'être discret. C'est pas le temps de t'habiller comme Elton John, là. Tu veux passer inaperçu. Comme par exemple, Mariana Mazza, là, très mauvaise tricheuse. Ta voix arrivée de loin, si ta voix pas, tu l'entends.
Ouais.
Non, mais on se souvient toute la petite patineuse russe de 15 ans qui s'est fait pogner au dernier jeu de Pékin, là.
Ouais.
Ben moi, je me serais jamais fait pogner dans un test d'urine. Je me serais fait poser une deuxième vessie, puis tout un système de tuyaux. Quand on veut, on peut pisser d'un deuxième urètre, OK? Geneviève Janson aussi, là, c'est quelqu'un qui n'a pas eu le courage d'aller au bout de sa tricherie. Elle dit, « Je n'ai jamais touché à de l'EPO de ma vie. On m'en a jamais proposé. J'en ai jamais pris. J'en ai même jamais vu. » C'est bien, mais arrête-toi pas là, Geneviève, continue. Je n'ai jamais fait de vélo. Je sais pas c'est qui Geneviève Janson. Vous êtes qui, vous? Où suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Ah, puis là, tu pars en courant en poussant Alain Gravel. Ben, Brigitte en parlait tantôt, là, Lance Armstrong.
Oui.
Moi, là, si j'avais été lui, je serais morte du cancer. Comme ça, il aurait donc pas compétitionné après ça. Il serait pas droqué pour gagner, puis il serait pas fait pogner! Le plan parfait! Non, mais finalement, je dois vous avouer une autre affaire. En fait, c'est pas moi qui ai fait la chronique aujourd'hui. Ma voix, en fait, est celle de Michel Deslauriers. Puis j'ai fait du lip-sync tout le long d'un vieux sketch de la semaine prochaine.
Ah! Ben bravo! C'était bien fait!
Merci.
Moi, j'ai été berné.
Il manquait juste Alain Collin avec des bruitages loufoques.
Moi, ce que j'ai aimé, c'est que tu as dit que à la place de Armstrong, tu serais morte du cancer.
Ouais.
Je te rappelle, c'est un cancer des testicules.
Ah!
En tout cas, je dis ça comme ça.
C'est,
non, mais c'est peut-être pas si important, mais je suis un gars de précision, moi.
Détail, ouais,
moi, j'accroche sur des détails. Je suis bien fatigué avec ça. Allez, évidemment, l'épisode tire à sa fin, mais Yvon, t'es toujours là, Yvon?
Oui, il est toujours je là. Suis là.
Alors, Yvon, on a une surprise pour toi. D'abord, ce qu'on va faire, on va commencer en écoutant un extrait de la version québécoise, lancer-frapper. Je ne sais pas si des gens utilisent les mots lancer-frapper.
Jamais.
Non, c'est slap-shot.
Je exact sais, hein, mais c'est ça. Mais c'est slap-shot. Donc, on va entendre un extrait de slap-shot dans lequel tu joues. On écoute ça à l'instant.
Ici Jim Carr. Denis, je sais que plusieurs de nos auditeurs ne connaissent pas très bien les termes du hockey. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, un dégagement?
C'est quand un bonhomme lance le puck dans l'autre bout de la patinoire avant que les autres soient là ou qu'il n'y a personne alentour. Mm-hmm. Quand je lève le bras comme ça, il arrête la game et puis il recommence.
Mm-hmm. Et qu'est-ce que c'est qu'un bâton élevé, Denis?
Ça, c'est pas compliqué. Ça, c'est quand un gars t'envoie son bâton. Ici, là, t'as pas le droit de faire ça.
On n'a pas le droit. Hein?
Oh non. Jamais, jamais.
Et pour quelle raison?
C'est contre les règles du jeu.
Ah.
Il faut être stupide pour faire des choses du genre. Les blocs font ça, pas avec les
Denis, qu'est-ce que ça veut dire, cingler?
Oh, ça, c'est très simple. C'est ça.
Mm-hmm. Ça entraîne une pénalité, je crois. Hein?
Ouais. Si t'en farges un homme ou s'il t'en donne un, comme ça, ou pour un hoop de même, ou bien un 6 pouces d'un côte, comme ça, c'est tout mal, ça.
Mal.
Tu joues de même, on te sort, on t'envoie sur le banc à coup sûr. 2 minutes à passer tout seul pendant que les autres jouent, ça fait que t'as honte. Ensuite, tu sors du banc.
Oh my God! Et comme le film a été traduit dans plusieurs langues, on va réécouter le même extrait, mais en version française de France.
Salut, me revoilà. Denis, vous savez que nombreux sont les auditeurs qui ignorent les finesses et les fins du hockey. Qu'est-ce qu'on entend, par exemple?
C'est quand le palais, nous, on appelle ça la rondelle, arrive, bang, tout droit sur les autres gars et qui sont pas là, vous voyez. Je lève le bras comme ça, alors on arrête la partie, puis on recommence.
Et qu'entend-on par interférence?
Ça, c'est plus facile à expliquer. C'est quand le gars, il prend la crosse et il fait ça et ça, justement, ça doit pas se faire.
Ça ne se fait pas.
Ah non, jamais, jamais.
Et pourquoi non?
C'est contre les règles du jeu.
Ah.
Faut être stupide pour faire ce truc-là. Il y a que les Anglais qui le font pas, les Canadiens français, nous, on est réglo.
Qu'est-ce qu'un sabrage?
Ça, c'est très simple. C'est ça.
Cela, Entraîne une pénalité, je crois.
Ouais, pour le croche-pied aussi, il y en a une. Ah. Comme ça, et pour les crochets, comme ça. Et le pire, c'est ça, vous voyez. Comme ça, c'est moche, ça.
Moche.
Vous faites ça et vous êtes sorti, mais on vous envoie au bord. Deux minutes à passer tout seul pendant que les autres y jouent, alors vous savez, on a honte.
Ça a l'air d'une blague.
C'est Valérie Lemercier.
C'est Valérie Lemercier.
C'est Valérie Lemercier qui fait la blague.
C'est les mêmes producteurs. Oh, hey, parce que vous savez peut-être pas, chers auditeurs, et Yvon non plus, je crois pas que tu le saches, c'est Sport Merci Bonsoir qui a mis la main sur deux autres versions qui n'ont jamais été entendues. Ça, c'est bien, bien important de le préciser. Hein. Ça n'a jamais été entendu. Il y a peut-être une bonne raison à ça, vous allez me dire. On ne sait pas. On a trouvé ça dans les voûtes de Téléfilm Canada, la version musicale.
Qu'est-ce que ça veut dire un dégagement?
C'est quand un homme prend son élan et sa clapoque à l'autre bout de la glace quand il y a presque personne dans place.
Qu'est-ce que c'est un bâton élevé, Denis?
C'est quand on te l'envoie dans les parties. T'as pas le droit de faire ça, mon hostie. C'est contre les règles, c'est interdit.
Denis, qu'est-ce que ça veut dire cinglé?
C'est très simple, ça entraîne une pénalité. C'est ou bien quand t'en enfarges un autre, ou t'y donnes un 6 pouces d'un côte.
D'un côte.
Si tu joues de même, on t'envoie sur le banc. Deux minutes tout seul, c'est longtemps. Quand tu ressens la honte de pas être présent, pendant que les Chiefs se font rentrer dedans.
C'était slap dance, mesdames, slap messieurs. Dance. Impressionné, hein? Impressionné. Nous aussi, on est impressionnés, mais pas autant qu'avec la dernière version qu'on a trouvée et qu'on écoute à l'instant.
Denis, vous connaissez bien une audience là qui m'a fait comprendre tout tes moqués, hein? Est-ce que vous êtes capable d'expliquer mon sac de dégagement?
Eh bien, ça, c'est simple. Vous connaissez là où il y a un joueur qui lance ses rondes là dans l'autre zone. Pour qu'une raison, mon cher, et pas game moon. Gardien là, moi-même, levé même comme ça, et habite la siffler, et nous recommencer.
Ok, expliquez-moi mon sac ou bâton élevé.
Ah, mon cher, ça c'est pas simple. Comprendre, c'est là où le joueur voyait bâton lit dans figure. Ou pas qu'a fait ça, mon cher.
Non, ou pas qu'a fait ça.
Jamais, jamais, mes amis.
Et pour qui ça, ou pas qu'a fait ça.
Ou pas qu'a fait ça, parce que ou pas qu'a fait ça. Oh, oh. C'est mon stupide malandrin qui a fait ça, vous comprenez? C'est blanc même qui a fait ça.
Oh, Denis, est-ce que ce qu'a dit ça, il y aurait les cinglés?
Ah, ça, c'est une autre bagaille très simple. C'est comme ça.
Qu'est-ce qu'on écrasé? Si vous faites ça, vous avez une punition.
Où qu'on est, mon cher? Si vous avez tombé sous l'aigle, ou bien si monsieur a frappé ou comme ça, ou si monsieur a accroché ou comme ça, ou s'il pesait bâton lit, bodeye ou. Ah, ça pas correct, mon cher.
Ah, ça pas correct, frère.
Si vous avez joué pendant un match là comme ça, vous avez sorti, oui. Mm-hmm. Ou pas arrêté dans une bonne punition. Pour qu'on ou pendant deux minutes, pendant tout ça, l'autre vous avez arrêté sous glace là, et puis vous avez senti toute honte là, vous comprenez? Mm-hmm. Après ça, si Dieu le veut, vous m'êtes sorti.
Oh, wow! Oh, my God! Oh! C'est quand même bien de connaître la scène dans sa version d'origine pour apprécier celle-ci. Oh, wow! Oh, wow. Hey, ça, c'est formidable! Écoutez, c'est ce qui met un terme à l'épisode d'aujourd'hui. Alors, il faut absolument donner une belle main d'applaudissement à notre invité. Oui. Monsieur Yvon Barrette qui était là avec nous en direct de Saint-Léon. Merci, Yvon.
Merci. Plaisir, mes amis.
Les
ailes sont en route.
Les ailes sont dans la malle. Les ailes sont dans la malle. Donc, merci à Yvon Barrette. Hey, un gros merci à tous les gens présents ici avec nous, j'allais dire dans le studio, mais dans la cage. Oui. La cage, hey. Brasserie sportive du... bonjour, où c'est qu'on est? Dans
à la place Versailles. Versailles.
La place Versailles.
Vous disiez que ce n'est pas une vraie cage. Là.
Donc, hey, merci beaucoup à la technique. Émile Gervais, Jonathan Bellil également. On remercie Éric Desranleau à la direction musicale.
Les ambiances sonores de Raphaël Couture aux réseaux sociaux. Dominique Gravel, recherchiste Alexandre Vadeboncoeur. Pour les textes, Martin Brière, Mathieu Charlebois, Stéphane Plante, Laurent Paquin, Nadine Mathurin et Suzanne Vallière-Nollet. Notre réalisateur, M. Benoît H. Remerciements à Marie-Ève Allard, La Cage et Firebag Montréal. Et puis, encore un gros merci à Yvon Barrette, notre invité du jour.
Merci beaucoup.
Merci. Merci à vous, merci. Chers auditeurs, et on se reparle dans un autre épisode de Sport. Merci, bonsoir!